Bienvenue sur le podcast du Club du Large, le premier club entreprise de la voile océanique. Le Club du Large, c'est une communauté de passionnés de course qui se retrouvent lors de temps forts autour des principales épreuves du calendrier voile. Porté par OC Sport Penwick et parrainé par le CIC, le Club du Large, c'est un réseau d'affaires, bien sûr, mais aussi une véritable plateforme de contenu avec des conférences, une newsletter, une page LinkedIn et ce podcast dans lequel nous recevons les femmes et les hommes qui font la course au large. Toutes les infos sur le club sont à retrouver sur clubdularge.com.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée du Club du Large. Je m'appelle Pierre-Yves Lautrou, je suis le cofondateur de Tip & Shaft et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pour ce début de soirée. Je vais laisser à Daniel Ball, le directeur général du CIC, le soin d'introduire justement ce Club du Large parrainé par le CIC dans un lieu exceptionnel. Daniel, c'est à vous.
Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là ce soir dans ce lieu effectivement exceptionnel pour le lancement de ce nouveau Club du Large. Le CIC est vraiment fier d'être parrain de ce Club du Large. On se retrouve donc effectivement ici dans cet amphithéâtre du Musée national de la Marine. Vous m'en donnez l'occasion, hein, et j'ai plaisir à le dire que nous avons fait le choix au CIC de devenir également mécène de ce musée. Hein. Le CIC est très présent dans tout ce qui concerne la culture, mais là aussi, et notamment sur Paris, nous sommes un mécène depuis plus de 20 ans du musée de l'armée. Et donc là, nous sommes très heureux d'annoncer que nous serons également un mécène important du musée national de la marine. Bon, ça fait partie des valeurs auxquelles le CIC est attaché, de pouvoir transmettre le savoir. Et de pouvoir également s'intéresser à ce qui est l'histoire de notre pays. Et on aura l'occasion, avec ce nouvel engagement, de simplement contribuer à la valorisation de ce monde unique que vous connaissez bien, beaucoup d'entre vous en tout cas, qui est celui de la mer, des mers, des océans. Donc on sera aussi là, ce Club du Large est également mis en place pour mettre en valeur encore plus fortement une nouvelle aventure sportive que nous aurons l'occasion de vivre à partir du mois d'avril, hein, puisque c'est The Transat CIC. Je me souviens de discussions qu'on avait eues en 2018 pour devenir le partenaire titre de The Transat CIC. On rêvait de cette Transat CIC en 2020, et donc celle de 2020 n'a pas eu lieu, mais j'ai aucun doute celle de 2024 se déroulera et sera un formidable moment entre l'Orient en Bretagne et puis surtout avec une arrivée qui s'annonce d'ores et déjà absolument mythique à New York. Je pense que les skippers en rêvent, l'organisateur aussi et puis le partenaire titre que nous sommes également. Et bon, pour le peu de connaissances que j'ai en matière de voile, mais de temps à autre je discute avec l'un ou l'autre skipper, ils me disent que c'est vraiment une transat particulièrement exigeante sur une route nord. Voilà. Et je sais que c'est aussi l'héritière de la transat anglaise. Et c'était, je me souviens dans les discussions qu'on avait eues, quand on m'avait dit c'est la transat anglaise qui va s'appeler cette transat CIC, ça avait été un élément très positif pour la prise de décision. Comme quoi, et parfois des mots qui sonnent bien, qui sonnent fort. Donc ce soir, dans ce premier Club du Large, nouvelle série, une superbe thématique qui est celui de la décarbonation du transport maritime. Et c'est un lien formidable qui peut être fait justement entre le sport, l'économie, et également entre le CIC, parrain d'une épreuve de voile, mais également très engagé dans le domaine du financement et surtout en tant qu'entreprise à mission, avec une volonté évidemment de contribuer au développement de nouvelles filières et de permettre de contribuer à la décarbonation, là ce sera du transport maritime, mais la décarbonation dans beaucoup d'autres domaines, puisque nous avons mis en place dans le cadre du dividende sociétal de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, notre maison mère, un dividende social donc qui permet notamment d'investir sur des projets dans le cadre d'un fonds qu'on appelle un fonds de révolution environnementale et solidaire. Sur la mer, je voudrais juste rappeler que nous avons, dès 2019, adhéré à l'association Principe de Poséidon, donc, ce qui montre clairement notre volonté de fixer une courbe de décarbonation de notre portefeuille de financement maritime en ligne avec les objectifs de l'OMI. Bon, le CIC est aujourd'hui une banque qui intervient de manière très, très régulière dans le financement du transport maritime. Et aussi, nous sommes aujourd'hui aux côtés de certains acteurs qui investissent sur le transport vélique. Donc, et de ce point de vue, nous sommes avancés sur deux projets très, très précis qui devraient aboutir dès les premières semaines de 2024. Notamment aux côtés de Tote et de Vela. Et là, on sera sur de l'investissement en fonds propres, justement dans le cadre de ce fonds de révolution environnementale et solidaire, dans le cadre de notre dividende sociétal. Le dividende sociétal, c'est une affectation de 15% du résultat net consolidé annuel de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour des investissements dans le domaine environnemental et sociétal. Mais au-delà de tels investissements en fonds propres, bien entendu, nous avons également une vraie stratégie d'accompagnement par des financements beaucoup plus classiques d'un certain nombre de partenaires. Et on contribue également au financement de navires à propulsion hybride. Donc ça, c'est également un axe de travail que nous avons. Voilà, je ne vais pas être très long parce qu'on a beaucoup d'intervenants de très grande qualité tout à l'heure et on se réjouit à l'avance de les entendre. En tout cas, nous voulons être et nous continuons les discussions pour être encore plus fortement de vrais partenaires à la fois du monde de la mer, mais également, surtout dans cet angle, de permettre d'avancer autant qu'on peut le faire à être des acteurs de la révolution environnementale qui est en cours. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis franchement, je me réjouis à l'avance des échanges intéressants que nous allons entendre. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Daniel, laissez le micro sur la petite table. Merci beaucoup. Un petit mot d'explication pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le Club du Large. Donc c'est le fruit d'une vision commune entre CESPORT et le CIC qui vise à fédérer les acteurs économiques, les décideurs et les passionnés de la course au large. Il y en a beaucoup ce soir. Sous une même bannière et sur le long terme, pour ceux qui étaient présents l'année dernière et les années précédentes, on a fait des tournées en région, on a fait un vrai roadshow, oui Laurent, on a fait 6 dates en région et maintenant on fait 4 ou 5 dates par an et on aura un rendez-vous à Marseille de mémoire au mois de mars. Voilà, c'est le premier club entreprise de la voile océanique et son objectif c'est de rassembler à l'occasion de nombreux tours forts comme celui-là mais aussi les départs de course partout en France. Rassembler les passionnés, puis engager des échanges concrets autour de notre environnement, de notre écosystème, en mettant en lumière ceux qui font et qui ont fait la course au large en France. Évidemment, ce soir, on parle sous l'égide de The Transat CIC, dont Daniel Ball a bien rappelé la gestation et la renaissance. On va regarder un petit teaser, mais pour mémoire, c'est le 28 avril à Lorient. La dernière fois, je m'étais trompé dans la date, c'est bien le 28 avril à Lorient. Et je vais demander à Joseph Bizarre, le directeur général d'Océsport Pendwick, organisateur de The Transat CIC, tu vas prendre un petit micro ici, de venir nous parler un petit peu de ce prochain rendez-vous.
Eh ben merci beaucoup. Merci Daniel Ball de nous accueillir ici à Paris et dans ce musée éminemment symbolique et d'autant plus qu'on est ici dans l'amphithéâtre Éric Tabarly. Alors, bien sûr, pour nous tous, c'est les souvenirs des navigations d'enfance. Et puis pour nous, Océsport Pendwick, c'est le fondateur de notre entreprise. Donc on est très fiers d'être ici aujourd'hui pour en parler. Et du coup, on va faire un peu d'histoire rapidement. Je ne suis pas le plus grand fin connaisseur, mais il se trouve qu'en course au large, je connais quelques dates et je connais mes classiques. En 1960, il avait fallu 40 jours à Francis Chichester pour traverser l'Atlantique Nord sur la fameuse Transat anglaise, qui à l'époque, pour mémoire, partait d'Angleterre. 4 ans plus tard, il avait fallu 27 jours à Éric Tabarly pour gagner cette grande course et puis sceller l'histoire de la voile française, puisque Éric Tabarly, vous le savez, a été l'initiateur de ce qui est devenu la plaisance française, puisque c'est par la passion d'Éric Tabarly que le français s'est passionné par la voile, que ça a ouvert une industrie nautique et que ça a été un des actes fondateurs de la particularité française en matière de nautisme. Et puis, je me souviens aussi qu'en 2016, François Gabart a mis 8 jours, 8 heures et je crois 52 minutes. Je ne sais pas si tu te souviens de ce timing-là, mais je l'ai vérifié avant de venir, pour faire cette traversée et arriver en vainqueur à New York. C'est 4 fois plus vite que ce qu'avait fait Eric Tabarly en 1964. Et nous sommes le seul sport dans lequel la vitesse a été multipliée par 4 en l'espace de 52 ans. Ça fait de notre sport un laboratoire en matière d'innovation et ça va être notamment un des sujets de ce soir. Et les débuts de ce que peuvent aujourd'hui être le transport à la voile et en cargo que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors la Transat anglaise qui est devenue la Transat CIC, c'est une des grandes transatlantiques, la transatlantique historique, on dit que c'est la doyenne. C'est la première grande transatlantique au solitaire qui s'est courue sur ces grands bateaux de course. Et elle s'est imposée comme étant notamment la plus dure, la plus engagée d'entre elles. Les marins vous le diront, faire l'Atlantique Nord en solitaire, ça n'est rien de moins qu'une, ça n'est pas une sinécure. C'est sans doute beaucoup plus engagé que ne peut l'être les grandes transatlantiques qui passent, elles, par les routes des alizés et qui sont dans les vents portants, dans la chaleur et sans les icebergs. Aujourd'hui, passer par le Nord, c'est évidemment beaucoup plus engagé. Et cette course, c'est un passage entre deux continents, c'est aussi un passage entre deux époques. Et elle est devenue le témoin de ces évolutions qu'on a connues dans notre sport. Je vais vous parler tout à l'heure. L'évolution de vitesse, l'évolution laboratoire de technologie. Les bateaux d'hier n'ont plus rien à voir avec les bateaux d'aujourd'hui. On parle de bateaux volants, on parle de nouvelles aérodynamiques, on parle de nouvelles hydrodynamiques. Et c'est tout naturellement pour la prochaine édition, qui est portée par le CIC, comme vous l'avez vu, malgré l'annulation de 2020, comme quoi les grandes courses peuvent aussi traverser les grandes épreuves comme celle du Covid. Et bien en 2024, on se relance sur la Transat CIC pour cette nouvelle édition, qui se voudra porteuse de ces grandes innovations et porte-voix de ces grands projets laboratoires que sont les évolutions nautiques sur les bateaux de course, mais aussi plus largement sur ces grands bateaux qui demain seront l'avenir du transport à la voile dans un monde décarboné. Et c'est tout l'objet de la discussion qu'on va avoir ce soir, tout l'objet de travail qui est fait sous l'impulsion du CIC, que de faire que ces grands événements sportifs soient aussi des porte-parole et des porte-voix de ces grandes innovations technologiques que notre sport a permis et permettra à l'avenir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 28 avril, 23 avril à Lorient, 28 avril pour le départ. Sur toutes les éditions, 11 ont été gagnées par des Français. C'est dire que ce sport est définitivement français et que sans doute que l'évolution de la course au large et du transport décarboné sera aussi français. Bonne soirée.
Merci Joseph. Très bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ce soir on va parler, décarbonation du transport maritime via la propulsion vélique. On va parler transfert de technologie entre le monde de la course au large et puis le monde du shipping. Et donc on a réuni un tour de table pour ça. Je vais demander du coup à Caroline Neumann, chef de projet décarbonation. Madame Neumann, je vais essayer de vous donner votre titre précis. Il est un petit peu long pour ne pas commettre d'impair. Vous êtes adjointe au sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires au ministère de la mer. Jusque-là, j'ai bon. Au secrétariat d'État chargé de la mer. Et vous y êtes aussi chef de projet décarbonation et innovation. Bienvenue, on peut vous applaudir. Venez nous rejoindre. Je vais demander à Stéphane Bourru, la couture que j'ai vu là, qui est le responsable RSE dossier sport Pendwick, de venir également nous rejoindre. Prenez un micro, Madame Neumann. Installe-toi, on peut l'applaudir également. Je vais demander à Guillaume Legrand, le président directeur général de Tote, de venir lui aussi nous rejoindre. Et vous vous asseyez aussi, vous prenez un micro. Et je vais demander enfin à Yves Parlier, qui a gagné la battle avec Joseph Bizarre, de venir nous rejoindre. Et de prendre, voilà, sans rancune, de s'installer. Et je vais demander à François Gabart de venir nous rejoindre également. Yves Parlier, que vous connaissez tous, intervient avec le titre de président de Beyond the Sea, qui est la société qui porte des technologies de décarbonation. Et François Gabart a plusieurs casquettes, mais ce soir, c'est celle de cofondateur de Vela, qui est elle aussi une compagnie de transport maritime à la voile. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre. Vous allez prendre des micros, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez dans la discussion. Je vais m'efforcer de vous poser des questions à chacun d'entre vous, mais n'hésitez pas à ce que ça soit une conversation vivante. On a jusqu'à 19h, et à 19h pétante, les portes du musée sont ouvertes pour vous. La visite n'est pas guidée, mais elle est libre. Et ensuite, à 20h, cocktail. D'ici là, on va discuter un petit peu entre nous. Et Madame Neumann, on va commencer avec vous, puisque aujourd'hui, la décarbonation du transport maritime n'est pas un concept qui flotte dans l'air. L'État français s'en est emparé. Il y a une feuille de route qui a été définie au mois de janvier, si mes informations sont bonnes. Et c'est vous qui en partie y avait contribué, en tout cas l'avait coordonné. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer à fixer les termes du débat et voir de quoi on parle et c'est quoi les grandes structures de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous, à grands traits, nous expliquer ce que c'est que cette feuille de route, sachant que, je le précise tout de suite, la décarbonation est un sujet du transport maritime est un sujet assez large et nous on va s'intéresser essentiellement à la partie vélique de cette décarbonation. À vous de jouer.
Oui, très bien. Donc cette feuille de route, elle s'inscrit dans un contexte tout d'abord international, puisque, comme vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous, le transport maritime correspond à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Il transporte également 90% de la marchandise en valeur et 80% en tonnage. Donc c'est un transport qui est vraiment indispensable aux économies maritimes, à l'économie maritime internationale et aux économies de chaque pays, chaque État membre. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Donc l'Organisation maritime internationale s'est saisie de ce sujet et a élaboré une stratégie de décarbonation du maritime en fixant des objectifs assez contraignants de réduction des émissions de CO2 des navires. Donc cette stratégie élaborée en 2018 s'est durcie encore plus en juillet 2023 dernier et a fixé des cibles de réduction des émissions des navires en fixant des cibles d'efficacité énergétique à bord des navires, d'efficacité opérationnelle et maintenant des cibles également de taux d'incorporation de carburant durable dans les soutes. En fait, l'idée, c'est d'arriver à un net zéro, donc zéro émission de CO2 ou équivalent en 2050. Donc, ça va être très dur d'y arriver, mais voilà, il faut bien faire quelque chose. Voilà. Parallèlement à ça, l'Europe a également son Green Deal, donc a fixé également des cibles de réduction d'émissions de CO2 pour le domaine maritime, en ayant une démarche également sur le taux d'incorporation des carburants dans les soutes, de l'électrification des quais dans les ports, mais également un système de quotas d'émissions de carbone. Voilà, et donc dans ce cadre-là également, nous devons faire quelque chose. Donc nous avons une députée européenne qui connaît très bien le sujet et sur lequel mes équipes s'appuient régulièrement pour porter la position française. Donc merci Catherine d'être présente ce soir. Et nous avons un contexte français d'élaboration d'une stratégie nationale bas carbone qui englobe l'intégralité des ministères français et qui est pilotée par le secrétariat général de la planification écologique et qui vise à appliquer les objectifs internationaux sur toutes les industries émettrices de CO2, dont le transport et le maritime à sa place. Dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi climat et résilience, toutes ces industries polluantes émettrices de CO2 ont dû réaliser une feuille de route. Et donc on a donné la main aux filières, donc aux privés, pour réaliser spontanément ces feuilles de route de décarbonation. Et l'ADG EMPA, donc la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, rattachée au secrétariat d'État chargé de la mer, voilà, a copiloté cette feuille de route avec le cluster maritime français. Donc cette feuille de route a identifié les pistes technologiques, énergétiques, opérationnelles qui pourraient être envisagées, déployées sur les navires. Les navires de transport, les navires de service, tout type de navires. Et donc dans ces différentes pistes, il y a des pistes technologiques, des pistes énergétiques et des pistes opérationnelles. Et ce qui ressort de plus en plus, c'est le sujet de l'énergie et les carburants maritimes durables. Donc, dans les discussions qui se passent au niveau de l'Organisation maritime internationale, mais aussi au niveau de l'Europe et au niveau français, il est clair que la demande en énergie pour créer ces nouveaux carburants va être exorbitante, puisqu'on n'aura pas de carburant équivalent aux carburants actuels, qui sont les carburants fossiles. Donc, on va avoir des besoins en biomasse et en électricité vraiment incommensurables. Nous avons une énergie qui est gratuite, qui est celle du vent. Et cette énergie prend tout son sens sur les navires de transport, puisque nous avons la possibilité de revenir un petit peu comme ce que nous faisions avant, mettre des voiles ou des équipements de propulsion par le vent sur nos navires. Et donc ces équipements de propulsion par le vent ont bien été identifiés dans la feuille de route. Et donc la Direction générale des affaires maritimes, nous, à chaque fois que nous avons des travaux interministériels sur ce sujet, nous portons ce, ce sujet vers les autres ministères, vers notamment la tirelire de la République, voilà, pour essayer de faire émerger cette filière. Pourquoi ? Puisque nous avons des acteurs français extrêmement bien positionnés dans ce domaine. Pourquoi ? Je pense aussi parce que c'est lié au fait que nous avons des coureurs au large qui sont, qui sont très performants et qui sont à la pointe de la technologie et qui savent... partager leurs connaissances avec les architectes navals, les ingénieurs, les bureaux d'études pour pouvoir déployer des systèmes performants et les déployer sur les navires. Donc il est important en fait de soutenir cette industrie. Nous avons des atouts et donc la DG EMPA l'a bien noté. Et donc le coureur au large, pour nous, c'est vraiment un atout supplémentaire que la France a puisque ça permet justement d'apporter une compétence inédite, un petit peu décalée, sur le transport maritime et créer des équipes vraiment performantes avec les architectes navals, avec les marins de commerce, avec les équipementiers, les chantiers navals, pour créer des nouveaux navires performants, rapides, mais toujours fiables et capables de transporter les biens de consommation dont nous avons extrêmement besoin.
Il y a une spécificité française de ce point de vue-là dans le monde de la décarbonation du transport maritime ? Quand vous négociez avec l'Europe ou quand vous êtes avec vos confrères étrangers, quand ils vous voient arriver, ils savent que vous avez un point de vue spécifique ?
Sur le Vélique, oui. On est un petit peu isolé au niveau européen. La France est un peu leader, malheureusement, mais heureusement, sur le sujet. Et donc, quand on souhaite avoir des appuis sur la prise en compte de la propulsion Vélique dans les objectifs d'incorporation de carburant durable ou autre sujet, c'est vrai qu'on est un peu isolé, mais on est pugnace. On a des bons députés et j'ai des bons agents, j'ai des collaborateurs qui sont vraiment, vraiment bons. Je peux vous le dire, est vraiment impliqué. Donc, on arrive quand même à faire passer des messages et à monter progressivement en puissance sur ce sujet.
Très bien. Voilà. Maintenant, on a le cadre réglementaire, politique et administratif, je dirais, de la discussion de ce soir. Stéphane, on va continuer avec toi. Il devrait y avoir, au départ de The Transat CIC, en croisant les doigts, une flotte de démonstration de voiliers cargo. Raconte-nous comment l'idée de Paris est venue et puis comment elle va se matérialiser concrètement.
Bonsoir à tous. En fait, sur chacun des événements qu'on organise, on souhaite utiliser la visibilité comme plateforme d'impact pour aller au-delà de juste un événement sportif. Alors je mets un peu des guillemets, parce que ça reste quand même une course à la voile avant tout. Mais en tout cas, cette visibilité doit servir à autre chose et à chaque fois, on choisit une cause. Sur la route du Rhum, destination Guadeloupe, c'était la protection de l'océan, par exemple. Là, sur la Transat CIC, on a choisi effectivement de parler de la décarbonation du transport maritime. Ça a été évoqué, le lien entre la course au large et le transport est extrêmement fort. Donc c'est une idée un peu folle qui est apparue il y a déjà un ou deux ans et qui a dû mûrir un petit peu pour pouvoir se concrétiser un petit peu plus. Concrètement, comment ça va se passer? Je n'ai pas encore toutes les réponses. On y travaille tous les jours. Aujourd'hui, dans les difficultés qu'on a, c'est qu'il y a assez peu de bateaux qui sont à l'eau. Il y en a beaucoup qui sont en construction, mais des bateaux à l'eau qui naviguent, ça reste encore assez peu commun. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est que mettre une date fixe dans un planning de transport maritime, c'est compliqué. Parce qu'ils ont d'autres contraintes à côté, ils ont les contraintes de leur chargeur. Et donc ça, forcément, c'est un petit peu difficile. Après, il y a évidemment des questions financières aussi, parce que les bateaux de course au large coûtent cher, mais ces bateaux-là...
C'est leur métier.
Ces bateaux-là sont encore plus grands, donc il y a évidemment des frais d'immobilisation, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment ça va se caractériser. L'idée, c'est d'avoir au moins... à quai, à Lorient, des bateaux qui puissent être visités par le grand public, mais c'est aussi de profiter du village et de la communication sur les sites internet, les réseaux sociaux, etc., pour sensibiliser les publics à ces différentes solutions. Et on a un bon exemple aujourd'hui avec Guillaume, François et Yves, de solutions extrêmement différentes, et c'est aussi ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que c'est encore le début, et qu'on a des solutions extrêmement variées, on ne sait pas exactement... quelles solutions sont encore là dans 20 ou 30 ans. Mais toute cette énergie et ce dynamisme sont intéressants et c'est ça qu'on souhaite partager.
Donc l'idée, c'est à défaut de course, on pourrait au moins avoir un showroom des différentes solutions technologiques sur le sujet.
Tout à fait. L'idée, c'est quand même aussi d'avoir des bateaux qui traversent, mais c'est le travail actuel.
Alors, on... bah, allez-y, allez-y. Merci Catherine. Bon, on va demander à l'un des intéressés, Guillaume Legrand, le patron de Taut. Alors, je crois que vous allez mettre votre bateau à l'eau quelques semaines, quelques jours. Je ne sais pas quel est le bon timing.
Moi non plus, je ne sais pas.
Voilà, à Concarneau. Et quand on s'est téléphoné hier, vous m'avez dit si ça se trouve, je vais sortir et puis je vais tourner à gauche, pour aller à Lorient. Pour prendre le départ.
Si on met le clignotant à gauche, on va à Lorient. Et effectivement, on sera certainement ravis d'être sur ce village départ et d'avoir l'occasion de pouvoir montrer le meilleur qu'on a donné, qui est cristallisé par ce navire. Le plan, c'est en théorie de mettre le clignotant à droite et de vite aller au Havre pour entrer dans les opérations. Parce que si, on a des dates fixes, et les dates fixes, c'est celles de nos chargeurs, de nos clients. Et on a toujours une bonne raison pour aller en mer, c'est celle de faire du transport maritime. C'est de là où on vient. On dit à Douarnenez que partir en mer sans raison, c'est finir en enfer par hasard. Nous, on part en mer avec une raison, c'est celle de faire du transport.
Très bien. Un autre dicton de pêcheur est ceux qui vont sur l'eau pour le plaisir iraient en enfer pour rire. On recroise bien. Vous êtes un pionnier du secteur. Il faut être motivé. Ça dure très très longtemps, ces projets-là. Ça fait quand même de nombreuses années avant qu'ils voient le jour. Là, vous êtes dans la phase très très concrète. Les bateaux sont en construction. Juste, est-ce que ça résonne en vous l'idée de faire une course sur une route, la route maritime Atlantique Nord est une très grande route commerciale. Est-ce que ça résonne en vous quand même cette histoire de course?
Tout à fait. Nous avons des navires sister ships, donc il est quand même assez possible qu'à un moment ils partent en même temps. Il est possible, comme on dit vulgairement, qu'ils se tirent la bourre pour commencer. C'est comme ça que ça avait commencé au 19e siècle, la fameuse 1866, la fameuse Clipper Tea Race. Ils arrivent avec quelques minutes d'écart après 14 000 milles, 65 jours, etc. Il est assez possible que ça se fasse comme ça. Il faut quand même rendre hommage à ces voiliers-là. Et notamment tout ce que la course au large doit à ces voiliers-là. Pensons à Slocum et pensons à tous ceux qui ont adapté dans le yachting toutes ces grandes techniques de la grande voile, le grand métier, dans ce qui est devenu plus tard, justement, ces Formule 1 des mers, cette innovation. Et tant mieux que ça revienne. L'énergie circule, évidemment, parce que c'est évidemment très poreux. On a des drisses, on a des écoutes, on tire des bords. Et évidemment, la science physique autour de nos navires est très différente. Deux grosses différences, nos BP, ce sont nos chargeurs qui comptent, notre capacité à décarboner. Nous ne sommes pas des écuries événementielles. Nous ne tournons pas pour le compte de sponsors. Donc il y a une société, on va dire, du spectacle et de la communication autour de grands événements sportifs. Et il y a nous qui, alors je pense que tous les navires qu'on voit sont magnifiques, sont très beaux, mais leur objectif n'est pas d'aller faire de l'événementiel. Alors, par contre, évidemment, rendre hommage humblement, pouvoir être là, rappeler évidemment toutes ces synergies, évidemment, le meilleur qu'on a pu prendre de la course au large chez nous est fondamental. Est-ce qu'un jour, il y aura une vraie course avec une vraie jauge, une vraie classe, marchandises sur le quai, 1, 2, 3, les dockers commencent à charger et on y remet les marins. Je rappelle que les grandes stars du 19e siècle étaient des équipages. On dit « one man, one boat ». Ce qui est beau dans mon métier, c'est l'équipage. C'est que d'une certaine façon, on se dissout également dans le bord. Et ce qui est beau, c'est le lien entre le marin, le manutentionnaire, l'agent, etc.
C'est une chaîne, faut jamais oublier ça. On va beaucoup parler de bateau, mais il y a des gens qui débarquent le matériel, des gens qui l'embarquent, des gens qui font les... Il y a des commissionnaires, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants dans la chaîne.
Et pourquoi ne pas, comme autant des grandes courses du thé, ne pas envisager que cette course englobe tout et participe de revaloriser du métier du marin, et notamment du marin de marine marchande, et du manutentionnaire, et de toute la valorisation, toute la noblesse qu'on peut trouver dans ces métiers-là. Et donc, tant mieux si l'industrie de la communication sportive s'empare un jour de nous, tant mieux si cette idée fait chemin en nous, pour peut-être nous approprier cette notion un jour de faire une course pour le compte, non pas de sponsor, mais de chargeur. Et c'est ce que nous permet de faire des sister ships. Donc nous, on a
Vous avez deux bateaux.
Tout à fait. Jumeaux.
On les voit à l'image.
L'idée qu'on a, c'est de rester dans une propulsion principale vélique, de pouvoir rester sur une décarbonation qui est drastique, radicale en tant que mode propulsif, de pouvoir naviguer au portant et d'augmenter les volumes en augmentant les fréquences. Du point de vue du chargeur, on pense que ce qui va être important, c'est d'avoir effectivement des fréquences qui sont importantes. Donc évidemment, on s'en rend compte, il y a des valeurs communes, il y a des thématiques et des envies communes. J'espère le 24 avril, je n'en suis pas sûr, en tout cas je ne m'exprime pas aujourd'hui, mettre le clignotant à gauche, mais quoi qu'il arrive, ça arrivera bien un moment. hein, dans tous les cas. Et puis, bah, ravi d'être ici aujourd'hui grâce à CIC. Merci de cette invitation et donc ravi de faire partie avec mon vieux copain de notre table ronde. Voilà.
Alors, il dit ça parce qu'on était à l'école ensemble il y a quelques temps. François, Yves.
En l'an 2000, en septembre.
J'ai dit il y a quelques temps pour pas dévoiler la date. François et Yves, je veux bien vous entendre un petit peu avant qu'on rentre un peu dans le vif de vos sujets sur ce parallèle là entre la course et puis le transport. Vous venez tous les deux de la course, vous allez tous les deux en partie plus ou moins vers le transport. Est-ce que au-delà de la techno, on va venir à la techno après, mais est-ce qu'au-delà de la techno, il y a des valeurs communes dans la vitesse, dans la course contre la montre, dans ce que Guillaume Legrand évoquait sur les héritiers de la route du thé. Est-ce que c'est des choses qui vous inspirent et qui résonnent en vous? Alors, Yves, parliez pour commencer.
Bonsoir. Ben moi, je me suis surtout aperçu vraiment de deux cultures complètement différentes, hein, entre le transport maritime et la course au large. Quand j'étais coureur au large, je m'étais rendu compte un petit peu de décalage complet entre les pêcheurs et nous, les coureurs. Je me souviens d'une discussion pendant la solitaire du Figaro avec un pêcheur à la VHF et vraiment son incompréhension de faire de la course au large. Et ce qui est assez frappant, le milieu de la course... Et je ne pense pas que François me le contredira, il faut se rendre compte à quel point, au niveau innovation, c'est une mine d'or entre les marins, les skippers qui naviguent, qui bouillonnent d'idées, qui rencontrent toujours aux extrêmes des problématiques, qui les cogitent avec leur équipe. Aujourd'hui, dans toutes les équipes de course, vous avez une cellule bureau d'études. Ils sont capables de dessiner, de fabriquer des protos. Il y a derrière des architectes navals, il y a des chantiers, il y a toute une supply chain de sous-traitants. On est capable, dans une écurie de course, de mettre au point des protos entre l'idée et la réalisation, selon la pièce, en un mois, de faire des tests, d'optimiser ça, de tester ensuite ça dans la course suivante, et puis de l'optimiser au final et d'arriver à une innovation en temps record. Quand on attaque dans le milieu de la marine marchande avec quelque chose de nouveau, là, on sort à une inertie. Alors, j'avais lu à une époque que tu avais, je crois, 8000 capteurs sur ton bateau pour le tour du monde. Globalement, vous avez zéro capteur sur un bateau. J'ai navigué sur le Fidelio ou le Corte Real, CMACGN, 349 mètres de long, 13 500 containers. Il n'y a pas un capteur, hormis Anemo Girouette. Et tout se fait à la main, c'est-à-dire la tension des amarres au port. Ils ne savent absolument pas ce qu'il y a comme tension. Tout est manuel. Donc, on est dans deux mondes qui s'ignorent totalement. Et donc... il y a une formidable chance de ce savoir-faire d'utiliser le vent qui date de Mathusalem. Hein. Ça se trouve, Homo sapiens, il y a 50 000 ans, est allé en Australie à la voile. Et le sport aujourd'hui, et grâce à des entreprises comme vous, Pendwick, OC Sport, grâce à des écuries comme celle de François avec Merconcept. Aujourd'hui, il y a une maîtrise, et particulièrement en France, de l'utilisation du vent, une énergie, on le disait, gratuite, de la source au sillage. C'est-à-dire que même quand on parle de biocarburant, il faut se rendre compte que pour les produire, il va y avoir énormément d'émissions, pour les transporter, pour les conserver, pour les acheminer, pour les rentrer dans la soute du bateau, il y a un parcours de dingue. Et donc, utiliser le vent, c'est une chance formidable que nous offre la course au large pour la répercuter quelque part sur tous les navires.
François, essayez d'enchaîner après ça.
Ouais, ça peut être simple, mais non, mais en effet, pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Yves et Guillaume auparavant, voilà, on a la chance de naviguer sur des bateaux extraordinaires grâce justement à toute l'histoire de la voile, à tout ce que la course au large a développé ces dernières années. Quand je voyais le petit clip tout à l'heure, en effet, on a progressé énormément. Et moi, quand je vois en effet la capacité de mes équipes à trouver des idées, à générer de l'innovation, à quelque part optimiser la performance d'un bateau. Si on peut se servir de ça pour l'utiliser dans le transport maritime face à ce grand défi qui est la décarbonation, ben faut y aller à fond. Et je crois, en effet, je suis vraiment profondément convaincu que ces deux univers qui sont peut-être qui se sont un peu éloignés, parce que gros, on a mis des moteurs sur les bateaux et c'est depuis maintenant quelques décennies, ce qui était très efficace, extrêmement polluant et délétère pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais très efficace. Et aujourd'hui, ben voilà, on est tous ici convaincus que le vent est une solution, si ce n'est la solution à terme pour décarboner le maritime, et que le vent, ben c'est notre métier, c'est le métier de la course large.
Alors parlons concrètement, on va partir avec ton projet qui s'appelle Vela. Donc jusque-là, on avait vu beaucoup de monocoques du côté propulsion vélique des voiliers cargo. Là, toi, tu proposes un trimaran. Et surtout, ce qui est toujours assez frappant dans les projets, mais comme dans le projet de Guillaume, hein, c'est que vous raisonnez complètement dans cette fameuse chaîne logistique. Vous avez vous optimisez tous les paramètres, le remplissage, le grutage, etc., etc. Tout est vraiment bien pensé. Est-ce que tu peux un peu nous pitcher ce projet-là? Pourquoi un trimaran? C'est quoi les lignes que vous avez proposées? Je crois que les lignes sont d'abord des lignes de cabotage européen, si j'ai bien compris. Raconte-nous un petit peu comment cette idée tient, le choix du trimaran. Qui pour le moment est un peu une première. Et puis c'est quoi ta promesse produit?
À nous, en fait, le départ, c'est déjà de partir sur du 100% vélique. C'est notre parti pris. Voilà, on pense que c'est vraiment le bon moment, et on le voit, c'est réaliste. Aujourd'hui, on est capable de faire des bateaux qui se propulsent 100% à la voile. On est concerné aujourd'hui, alors ça marche très bien avec la Transat CIC, hein, c'est qu'on se concentre pas sur du cabotage, mais sur du transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Et donc voilà, et on a essayé avec l'équipe Vela d'imaginer le meilleur bateau pour faire donc du 100% à la voile sur ce parcours. Et on est arrivé en effet sur un multicoque, sur un trimaran, avec forcément pas mal d'idées, hein, qui viennent de la course au large, avec les trimarans qui sont les classes qui sont les plus rapides aujourd'hui en course large, et qui sont aujourd'hui, par rapport au cahier des charges qu'on avait, voilà, la solution qu'on trouvait la plus performante. Alors on pourrait dire, à quoi ça sert d'aller vite? C'est pas de la course large, justement. L'idée, c'est de répondre aux besoins de nos chargeurs, de nos clients. Et il se trouve qu'à partir du moment où on prend le parti, hein, d'être 100% à la voile, il y a quand même un vrai intérêt d'essayer d'utiliser au mieux cette énergie du vent et d'aller le plus vite possible. On gagne sur notre temps de traversée, sur notre lead time. On arrive à, avec le même bateau, avoir plus de fréquence. Si on va plus vite, on arrive à faire plus d'allers-retours dans l'année. On arrive à augmenter nos volumes et nos capacités. Donc voilà, c'était la solution qu'on avait, qui nous paraît être la plus rapide et la plus efficace pour faire du 100% à la voile sur l'Atlantique Nord.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ce projet-là, c'est que ton trimaran de massif venait de VPLP et que là aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Bon.
Non, vas-y.
Désolé, je te laisse la question.
Non,
mais en effet, il y a.
Et en termes de transfert, on voit que c'est autant au niveau des matériaux, mais des architectes, des logiciels de routage. Enfin, le transfert entre la course au large et le transport vélique sont vraiment importants. Alors, ça reste effectivement deux mondes différents. Et je me rappelle de Lise qui est derrière, qui m'avait dit dès notre premier échange, attention, c'est deux mondes fondamentalement différents, et c'est vrai. Mais par contre, les passerelles sont de plus en plus nombreuses et vont au-delà de la partie construction, ça va sur la conception, le routage et encore plein d'autres choses à côté.
Non, mais je pense en effet que ces deux mondes, ils sont vraiment en train de revenir, parce qu'aujourd'hui, le transport à la voile, de toute façon, enfin, il a été abandonné pendant de nombreuses années, et aujourd'hui, il revient, il doit revenir, et tout ce qui a été développé dans la course large, en effet, est utilisé. Ce que développe Yves, les architectes, en effet, qui ont travaillé sur des bateaux de course large, qui aujourd'hui reviennent, j'ai envie de dire, dans le match sur du transport maritime vélique, ces deux univers sont en train de fusionner, et je pense que c'est intéressant en effet de profiter des événements qu'il peut y avoir comme la Transat là dans quelques mois pour essayer de renforcer un petit peu ce rapprochement.
Je parlais de cabotage européen parce que vous proposez, en tout cas sur votre site, des lignes remèdes, ce qui est assez rare en fait dans le transport maritime à la voile. Il y a essentiellement des lignes transatlantiques, beaucoup. Il va y avoir une ligne entre l'Europe et Madagascar aussi. Mais là, vous, je vois que vous proposez des lignes entre ça va être le Danemark ou le sud de la Suède et puis la France, l'Espagne. C'est pas les mêmes météos, c'est pas les mêmes engagements.
Non, alors pour le moment, on a vraiment le focus de ce premier bateau que. Donc on n'a pas encore lancé la construction, on est vraiment dans la période de levée de fonds, on cherche des financements pour lancer la construction au plus vite, pour être opérationnel sur l'Atlantique Nord à la fin de l'année 2025, si tout va bien. Et donc voilà, notre focus pour le moment c'est vraiment Europe-États-Unis. Alors pourquoi ce parcours, qui est un parcours qui est compliqué, on le disait sur la Transat anglaise, ça reste un parcours compliqué, mais c'est un endroit sur la planète où il y a du vent. On arrive à plutôt bien le prévoir. On va pas traverser ces zones de poteaux noirs, des détroits. Même s'il y a l'anticyclone qui joue un petit peu sur le parcours, même s'il peut y avoir des dépressions, et on le voit bien l'hiver, qui peuvent être très fortes. Aujourd'hui, on a des connaissances météo qui nous permettent justement de gérer ces soit zones de vent très fort ou zones de vent peu fort, et d'avoir justement cette promesse du 100% vélique avec une bonne vitesse sur l'Atlantique Nord. Donc voilà, on est vraiment focus sur cette ligne pour le moment.
Ok, très bien. Je remets ma ligne au remède dans mes dossiers. Yves, on va voir ton projet à toi. Alors c'est totalement différent. Là, toi, tu viens proposer, si on peut mettre les slides, des kites de Beyond the Sea. Donc il y a un kite, ça c'est le Sea Kite qui est vraiment destiné, on est sur un bateau spécifique qui est le démonstrateur, qui est ton ancien bateau de course. Mais toi, ce que tu proposes, c'est vraiment la Liberty Kite pour la plaisance et la pêche artisanale. Et toi, ce que tu proposes, le Sea Kite, c'est vraiment un complément le transport maritime traditionnel. Quoi.
Beyond the Sea, effectivement, on est positionné très différemment puisqu'on est équipementier et on s'adresse, nous, directement plutôt à des armateurs et plutôt des armateurs qui ont déjà des navires, et de compléter donc leur propulsion avec une propulsion secondaire à partir d'un kite. Et donc, effectivement, on a...
Ça, c'est le Liberty. Donc, ça, c'est plutôt pour la plaisance. Si on peut mettre l'autre slide, s'il vous plaît.
Le Liberty Kite, qui est un kite qui va se gérer lui-même tout seul. Mais c'est un kite assez unique au monde, parce qu'il est quand même en écoulement laminaire, sans pour autant nécessiter un pilotage. Et donc, sur un voilier dématé, il va pouvoir, par exemple, remonter contre le vent. Et aussi, donc, être très simple d'utilisation. Il y a juste du tissu et deux lignes, et il s'adapte en quelques 10 minutes sur n'importe quel bateau à peu près. Et donc, il est vendu aujourd'hui sous forme de sécurité. À environ 170 bateaux en sont équipés. Il y a de 10 mètres carrés jusqu'à 80 mètres carrés. Et sinon, on travaille surtout pour le développement d'une aile qui s'appelle le Sea Kite, qui, elle, est équipée de tout un système d'envoi et de récupération que vous voyez là sur notre catamaran démonstrateur, qui est aussi sur un yacht de 24 mètres aujourd'hui et qui, l'année prochaine, va équiper un tanker et un remorqueur de haute mer. Et avec ce kite, Sea Kite, on espère équiper, là, pour le coup, le maximum de bateaux existants. Il faut savoir qu'il y a près de 90 000 navires de marine marchande, par exemple, pour ne parler que de la marine marchande, puisque la pêche, il y en a plusieurs millions. Et faire gagner à ces armateurs quelques pourcentages. Et tout à l'heure, Mme Neumann parlait donc des coefficients d'efficacité énergétique. Elle parlait des taxes. En fait, les barres, par exemple, vont augmenter tous les ans de 2,5% par an. Et le risque pour un armateur, c'est de se retrouver avec son bateau qui va partir à la casse. Un kite va lui permettre de gagner peut-être 5 à 10 ans de vie de son bateau, ou va lui permettre de rester au-dessus d'une fourchette sur laquelle il n'est pas taxé en carbone. Donc ça devrait nous aider à démarrer cette technologie qui est quand même très nouvelle pour la traction des bateaux.
Guillaume Legrand, chez Taut, c'est pas que je voulais vous faire de vous le grand ancien, mais vous avez une ancienneté dans le secteur supérieure à beaucoup d'entre nous ici. Vous jetez quel regard sur ces propositions, ces propositions techniques qui sont très, très différentes de la vôtre,
très
quand vous les voyez arriver comme ça ?
Humble, très admiratif, parce que vous faites tous les deux, parce que tout le monde fait ici dans la salle. Je vois Jean derrière, je vois Amaury là-bas, je vois tout le monde ici. Donc je suis très enchanté, ravi de faire partie très humblement de cet écosystème qui est en train de pousser, qui est très français et qui chacun fait ses choix. Chacun fait son analyse, chacun essaie de progresser, rien n'est facile, hein. On est sur une table ronde, tout est simple, tout va bien, mais notre quotidien est dur, il ne faut jamais oublier ça. De là où on vient, on vient d'un monde où rien, hein, effectivement, ne nous a été donné. Hein. La marchande est éminemment un secteur assez opaque, nivelé par le bas, hein, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, hein, de par le pavillon, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment faire de la lumière sur cette marine marchande? Comment la valoriser? Comment premiumiser ce qu'on est en train de faire? Puisqu'il faut savoir que nous sommes dans un régime juridique qui est celui des eaux internationales, où par définition, des émissions n'existent pas, ne sont pas opposables. Alors, nos non-émissions, comment elles existent? Elles n'existent pas non plus. Quelle est la proposition de valeur à l'heure où même les chargeurs ne savent pas vraiment ce qu'ils achètent? Ils poussent un peu les boutons, il y a les forwarders qui sont là. De toute façon, le Bill of Lading consacre le secret. Et donc, finalement, nous sommes ici tous. Alors, fanat de course au large et de voile, certainement pratiquant, on a certainement tous navigué, mais une chose est certaine, c'est que nous sommes tous ici des acheteurs finaux de ce transport maritime, dont 90% de la valeur, 80% des flux, et pourtant une information qui nous est largement confisquée derrière. Donc comment on est capable, nous, infinitésimaux, en termes de déplacement, en termes de capitalisation, face au monde de la marine marchande moderne, il n'y a pas plus petit pot de terre face à plus gros pot de terre, hein, l'agriculture bio face à la conventionnelle, les énergies renouvelables face aux autres, etc. On est encore plus petit que tout ça. Et donc, il a bien fallu avancer, cranter des choses. Et donc, nous, notre choix a été de faire des navires à propulsion principale vélique qui peuvent tenir 10 nœuds de moyenne avec 1000 tonnes de capacité, qui sont sur des utilisations de moteurs de l'ordre d'1 à 2% parce qu'on est de toute façon en marine marchande. Et je tiens juste sur ce point ici à saluer tous les marins marchands, parce qu'on peut en dire du mal, du bien. Ils appliquent des normes à un niveau que beaucoup ignorent souvent. Ils ont des niveaux de compétences absolument exceptionnels. Eux-mêmes se remettent en cause en permanence. Et nous entrons de plein pied dans la marine marchande, où effectivement, alors non, il n'y a pas les labos qui bricolent vachement bien dans la course au large et les gars sérieux qui font des trucs durs d'un côté. Évidemment, de plus en plus, il y a des points de contact. Il y a des lieux qui sont grosso modo là, hein, les organismes de classification, de certification, qui sont évidemment les différentes comités centraux de sécurité par exemple, qui sous notre pavillon, on a fait le choix du pavillon français, nous projettent dans la réalité qui est celle de la marine marchande. Qu'est-ce que c'est que la stabilité quand on gîte? Qu'est-ce que c'est que l'évitement des collisions quand on dérive? Ça n'est pas que effectivement des courses où effectivement l'appât du gain est tel et on est dans quelque chose, on est dans une application quotidienne de choix qui pour nous, arrivant il y a quelques années sur des choix technologiques, on devait fiabiliser les choses. On va au bout des périmètres que ces technologies nous permettent aujourd'hui, de voiles d'acron, de gréement, de mâts en carbone, etc. Et ça nous permet, on pense, d'être sur une première flotte bientôt à l'eau qui a une première proposition de valeur qui existe. On en veut, on n'en veut pas. On considère... Alors, un petit point d'histoire, hein. Nous en 2011 on a commencé à affréter des navires traditionnels, on a transporté plus de 2500 tonnes souvent en chaîne humaine, hein, avec, sur plus de 20 navires on a organisé plus de 70 voyages très artisanal, hein, évidemment soulevant beaucoup de moqueries, hein, avalant beaucoup de couleuvres, mais on l'a fait à une époque où le transport vélique n'était ni attendu, et même la question de la carbonation, de la décarbonation du maritime n'était même pas question. Enfin, je veux dire, le maritime, c'est déjà décarboné, ne nous embêtez pas. Allez voir les avions, allez voir les camions. Et d'une certaine façon, on a compris les différents aléas qu'on pouvait avoir, mais en même temps, on est là actuellement dans une aventure complètement industrielle, sur une orbite qui est complètement autre, et on est ravis d'être là, de se rendre compte que des acteurs qu'on n'aurait jamais suspectés sont là aujourd'hui, qu'on a effectivement des projets de design sur tout type d'utilisation de la voile en tant que propulsion principale. On essaie de se battre aussi au niveau politique. Je le dis parce que c'est ma chère Catherine. Hein, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, la voix française est celle du Vélic. La réalité aussi, c'est que la voix française, c'est celle du GNL. Il faut quand même le dire. Et qu'aujourd'hui, par application d'un décret européen, nous nous retrouvons avec l'eau du GNL hein, qui est sortie d'un dispositif fiscal avantageux pour ce qui est décarboné. Et puis, on enlève le bébé du Vélic avec. Donc, la réalité, elle est là, hein, à partir de 2024. Battons-nous pour ça. Et merci à Winship et à l'organisation de nous en tant que filière pour être là. Et le message de ce soir, je pense, on est tous là, hein, grâce à Jean-Philippe, hein, et grâce au CIC, et grâce à la Transat CIC. On est tous là dans une salle, je crois que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Prenons cette photo, Jean-Philippe, faisons front commun pour défendre becs et ongles, parce que face à nous, c'est des très très gros. Hein, nous sommes très heureux, Armateurs de France, que je salue. Hein, et on a appris à connaître, en tant que tout petit là-dedans, les interstices, hein, les strapontins, appris à être plus ou moins agiles. Mais on sait également quel est le poids des grands armateurs. À mon avis, c'est une grande chance d'être un grand pays maritime avec de grands armateurs dans différents types d'exploitation maritime. Profitons de ça en famille pour défendre nos intérêts qui sont ceux de la véritable décarbonation.
Très bien. Madame Neumann, je vous ai vu faire la moue à une ou deux reprises en écoutant à trois reprises.
Oui, trois fois. Donc, je vais me permettre d'intervenir, il y en a pour tout le monde. Donc, monsieur Parlier, j'ai entendu dire qu'effectivement, les marins de commerce n'étaient pas du tout comme les coureurs au large, n'étaient pas du tout les mêmes personnes. Et puis, vous avez fait référence aux pêcheurs. Donc, c'est encore un autre monde. Alors, tout d'abord, il faut un marin de commerce. Ça ne monte pas en haut d'un mât, à la force des bras, à réparer quelque chose en pleine tempête. Un marin de commerce, quand il y a un équipement qui tombe en panne, il ne va pas aller au mouillage dans une baie réparer son mât avec un four fait maison. Et voilà. Donc ça, c'est pas ça. Donc les marins de commerce, ce sont des gens qui sont salariés, qui doivent faire un travail de transporter un bien d'un point A à un point B, et ils doivent le faire dans des conditions de vie à bord et de sécurité suffisantes. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu différent. C'est pas des surhommes, c'est des surhommes, mais pas de cette manière-là. Ensuite, j'ai entendu également l'inertie de la marine de commerce. Pourquoi l'inertie de la marine de commerce à se décarboner ? C'est qu'il n'y a pas qu'une solution. Le Vélic, oui, mais il y a d'autres solutions. Et donc, ils sont en train de tous chercher quelle est la solution pour la moins chère, parce qu'on est aussi inscrit dans un monde de commerce maritime, quelle est la solution la moins chère et la plus efficace pour décarboner le navire, pour respecter les cibles de l'OMI. Alors, aujourd'hui, on a un souci. On a beaucoup d'équipementiers là, qui sortent des technologies Vélic innovantes, mais on ne sait pas objectiver les performances. Donc je peux dire, hein, tout le monde nous vend du rêve, moi c'est 30%, 40%, ah moi c'est encore plus. Ben non, c'est pas ça. Donc là, heureusement, la filière Vélic, grâce notamment à Lise de Trimont et Winship, s'est coordonnée pour se lancer dans un projet structurant qui vise justement à fiabiliser, à faire un programme dont la fiabilisation des données de performance de ces systèmes. Tant qu'il n'y aura pas ça, les armateurs, ils diront, mais non, mais eux, ils me vendent du rêve. Comment je peux m'engager là-dessus alors que j'ai un retour sur investissement indispensable? Donc, il y a ça aussi. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'ils parlent de fiabilité. Moi, j'ai ces mots à la bouche. Tous les armateurs me disent, nous, on veut des systèmes fiables. On veut pouvoir être sûr que ça ne tombe pas en panne. On veut pouvoir les réparer aux quatre coins du monde. Et donc, ça aussi, c'est un sujet. CMA CGM en parle beaucoup. Eux, ils veulent en plus des systèmes fiables qui puissent être rabattables et totalement non gênants lors des opérations de déchargement des conteneurs. Donc encore un petit sujet à travailler pour nos chercheurs Vélic, s'il vous plaît. Et, et j'avais un autre sujet aussi. Pourquoi cette inertie de voiliers qui n'aboutissent pas? C'est qu'ils aboutissent surtout sur des petits navires. Parce que pour le moment, les équipements ne sont pas encore capables d'être déployés sur des navires de grande échelle avec des potentiels de réduction de consommation de gazole suffisantes. On commence à voir peut-être avec Silent Sea sur les gros paquebots, mais c'est tout pour le moment. Il n'y a pas de solution encore Vélic identifiée pour mettre des voiles d'envergure sur des gros porte-conteneurs capables. Capable de faire du 100% à la voile, c'est peu probable. Donc, c'est pour ça que les navires qui sortent sont des petits navires. Donc voilà, il y a toute cette problématique. Donc la marine marchande veut changer, mais ce n'est pas si facile.
François.
Pour réagir aux différents propos, et je pense à Guillaume, c'est vrai que c'est fabuleux. Enfin, là, aujourd'hui, dans cette salle, il y a une énergie, il y a plein d'idées différentes. Et face aux défis qu'on a de décarbonation, c'est juste, faut réaliser la chance qu'on a de pouvoir rassembler dans la même salle, en effet, toutes ces idées, toutes ces solutions, ces différentes approches. Et quand je vois justement l'histoire de la course au large depuis des années et la capacité qu'on a eue à imaginer, inventer avec des bateaux qui étaient différents, il y a eu toujours plein de choix et de stratégies différentes. Je pense qu'on peut être très très positif et optimiste sur la capacité ici en France à inventer, imaginer des solutions, des bateaux et des solutions pour répondre à ce problème de décarbonation avec toutes les enfin ouais c'est pas simple hein, c'est loin d'être évident comme le disait en face de nous il y a une marine marchande qui est installée depuis très longtemps qui a plein de contraintes mais voilà moi je dois être mais assez optimiste et voir tout ce qu'il y a et on est aujourd'hui mais il y a en effet une espèce d'écosystème qui existe dans la course au large et un peu donc justement alors à côté je sais pas comment le dire faudrait que tout ça ça on est main dans la main mais il y a en effet plein de projets et il y a aucun autre endroit dans le monde où il y a cette énergie-là en ce moment avec tous ces projets. Et il ne faut pas qu'on passe à côté de ça, en fait. Il ne faut vraiment pas qu'on loupe ce coche-là, parce qu'on a, en France, voilà, c'est cette capacité à répondre à cet enjeu mondial au niveau maritime, et il ne faut vraiment pas le louper. Quoi.
Yves, en format ramassé.
Non, très, très rapidement, il faut reposer les enjeux. On a dit qu'effectivement, au mois de juillet, on est passé d'un objectif de 50% en 2050 à zéro net. Et ça, c'est la planète qui nous l'impose. Donc là, il ne s'agit plus de se poser des questions, il faut foncer, quoi. Je veux dire, il y a des aspects d'échelle, ça, c'est des problèmes d'argent. Hein. Et donc ça, c'est bien qu'il y ait des gens comme le CIC qui se disent « Allez, nous, on va financer la décarbonation. » Alors merci à eux. Et là, il faut se relever les manches et il faut foncer. Alors moi, je veux bien faire le défricheur, mais il faut pousser derrière. Tout le monde en a besoin, tout le monde y a gagné. Et sinon, c'est la mort de notre civilisation. Donc c'est ça la problématique auquel il faut s'attaquer. Donc il ne faut pas y aller à demi-bras. Hein.
Tout le monde est d'accord ?
Merci Yves, on se rend pas tout à fait compte effectivement de l'ampleur de la catastrophe climatique. On en rigole, mais non, en fait, c'est pas du tout rigolo. On est en train de créer quand même un monde qui a ses propres capacités à organiser non seulement notre incapacité à vivre, mais de toute la biosphère autour de nous. Je pense, en une ou deux phrases, que nous sommes actuellement à un moment absolument historique, où effectivement des armateurs sont extrêmement challengés par des néo-armateurs. Longtemps, on nous a mis dans une boîte. On est en train de sortir de la boîte. On est clairement en train de se rendre compte que le carburocentrisme, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas entrer dans des longs développements sur mais il est évident que la science physique va s'appliquer à nous. Hein, le parent pauvre du transport est le maritime. Il n'y aura pas de carburant absolument abondant, absolument fiable, absolument décarboné et absolument pas cher, quoi qu'il arrive. C'est tout simplement du Lavoisier et de la thermodynamique. Et donc, en fait, quand on pose ça et quand on se rend compte que prise en propulsion principale vélique, la voile permet d'obtenir les meilleurs rendements sur un vent qui est devenu prédictible depuis une quinzaine d'années grâce à des évolutions dans les matériaux qui sont toutes récentes. Je ne crois pas que le fournisseur de nos mâts ait été capable de construire des mâts comme ça il y a encore 2-3 ans. Et ces pépites qui sont dans cette salle avec leurs actionnaires, avec leurs prêteurs, avec leur écosystème autour d'eux, peuvent faire une filière française qui peut changer le monde. Aujourd'hui, on a là. En même temps, on s'en rend compte qu'on a des réglementations qui sont largement dégradées pour nous, actuellement, dès le 1er janvier. Au niveau de l'OMI, donc dans 12 jours, une réglementation ETS s'applique. Pour la première fois, on va avoir une réglementation carbone aux frontières. Et donc ce contexte, ce grand contexte est là pour nous, dans un contexte de taux de fret assez bas. Il faut continuer à pousser, développer maintenant. On peut se retrouver comme les pionniers de l'aviation dans les débuts du XXe siècle. On peut se retrouver dans une dizaine d'années avec un pays absolument leader d'un nouveau type d'industrie qui est celui du transport décarboné. Et c'est tout ce que je nous souhaite.
On ne va pas réussir à faire le débat. On a des contraintes horaires. Vous allez avoir le temps de rediscuter après. Je laisse à Madame Neumann le soin de conclure. Yves, je vois que tu veux parler encore, mais on va pas y arriver. Le timing est déjà largement dépassé. Vous allez avoir tout le temps que vous voulez au moment du cocktail pour discuter pendant la visite. Je vous laisse conclure, du coup.
Oui, juste pour défendre, c'est qu'on ne défend pas le GNL. On ne défend pas le GNL. Nous avons une politique prioritaire du gouvernement avec un chantier prioritaire, verdir les flottes et les ports, où on doit suivre le taux d'émergence des navires équipés de technologies décarbonées. Nous ne comptons pas les navires GNL actuellement, parce que c'est une énergie de transition. Les armateurs ne savaient pas quoi faire. Le GNL permet de décarboner un peu, mais il y a des problèmes de fuite fugitive de méthane. Donc on ne soutient pas le GNL plus que le Vélic. Le suramortissement vert dont vous parliez, effectivement, on est contraint par un règlement européen, mais on est en train de le réécrire, ce suramortissement vert. Il y a d'ailleurs Monsieur Banel qui est arrivé, notre directeur général des affaires maritimes, qui a bien voulu se déplacer malgré son agenda un peu compliqué. Et puis, il y a Rémi Meschkas, je crois aussi, qui est notre spécialiste de suramortissement vert. Vous pouvez aller le voir, il vous expliquera le soutien qu'a la DG EMPA à la filière Vélica. Rémi.
Merci beaucoup. On va rester sur cette parole-là et sur les paroles d'espoir et d'enthousiasme. Un grand merci à tous les cinq. Je pense qu'il aurait fallu au moins deux bonnes heures pour aller au bout de tout ce qui a été lancé. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt à Lorient. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast du Club du Large. N'hésitez pas à le partager et retrouvez-le sur clubdularge.com.